Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
L'histoire incroyable de l'éléphant Hans, des forêts du Sri Lanka au Muséum d'Histoire Naturelle, c'est le titre d'un ouvrage signé Philippe Candegab et qui vient de paraître chez Vendémiaire. Franck Ferrand nous en parle aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. J'aime bien ces histoires d'animaux exotiques, attraction numéro un de leur époque et qui nous en apprennent souvent beaucoup sur la sensibilité de nos aïeux. Le directeur de la ménagerie du Jardin des Plantes, Michel Saint-Jalme, est avec nous pour évoquer l'éléphant Hans, sa compagne et ses congénères.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Jean sur les origines de la peinture à l'aquarelle.
Voilà un sujet qui m'est cher. Pour le moment, c'est donc le portrait d'un couple d'éléphants que nous allons brosser.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Si vous habitez à Bourges ou dans les environs, vous allez pouvoir rendre visite à l'éléphant Hans. En tout cas, vous pourrez voir sa dépouille empaillée au Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges, où elle est en dépôt depuis 1931. Il se trouve que Philippe Candegab, qui a écrit cet ouvrage, l'incroyable histoire de l'éléphant Hans, a été lui-même conservateur à ce musée pendant une dizaine d'années, donc il a fréquenté quotidiennement l'éléphant empaillé, si je puis dire, qui faisait partie à l'époque d'un lot de 28 animaux naturalisés offerts au musée Berruyer par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Il faut vous dire que l'éléphant Hans et sa femelle, Parky, sont un peu ce qu'on pourrait appeler de vieilles peaux. Ils sont arrivés en France à la fin de la Révolution en 1798, après avoir été confisqués aux Provinces-Unies 3 ans plus tôt. Alors d'où venaient-ils originellement? Des Indes, bien entendu, où leur capture avait eu lieu au temps de Louis XVI. Je vous propose donc de nous retrouver tout de suite à Colombo en 1785, précisément le 11 novembre 1785, quand un groupe de navires de guerre aborde Ceylan, Ceylan qu'on appelle aujourd'hui le Sri Lanka, cette île de Ceylan alors sous domination hollandaise. Des hommes descendent sur la terre ferme, il y a d'abord le capitaine Van Braam qui commande une escadre de la Compagnie des Indes Orientales, escadre de 4 vaisseaux de ligne. Le vaisseau amiral, l'Utrecht, compte 68 canons et 450 hommes d'équipage, c'est pour vous donner un peu la dimension et des navires et de l'escadre. Elle est partie, cette escadre, 2 ans plus tôt des Provinces-Unies, on dirait nous des Pays-Bas, pour faire la guerre aux Anglais, pour reconquérir un certain nombre des régions perdues dans ces lointaines colonies néerlandaises. Seulement, la guerre entre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies a pris fin en 1784, et depuis plusieurs semaines maintenant, donc, Van Braam et ses hommes sont sur le retour. Ce 11 novembre 1785, donc à Colombo, le gouverneur les reçoit avec tous les honneurs et il faut bien les occuper, tous ces gens. Alors, au bout de 3 semaines, on leur propose une partie de chasse, pas n'importe quelle chasse, de chasse à l'éléphant. C'est une tradition, c'est une chasse qui a été organisée de longue date, hein, parce que tout ça se prépare, bien entendu, beaucoup de monde doit participer. Le gouverneur et sa famille sont à la manœuvre, un certain nombre de hauts officiers, de hauts fonctionnaires, je veux dire, d'officiers, le capitaine Van Braam, un certain nombre de ses hommes, tous ces gens-là vont participer à la chasse. Philippe Candegab nous raconte, il explique que la chasse à l'éléphant, je le cite, n'a aucune fonction sportive ou récréative, mais répond à un double objectif économique. Il s'agit tout d'abord de réguler les populations de pachydermes pouvant créer des dégâts sur les cultures, et notamment sur les plantations de cannelier, la principale richesse de l'île. Et par ailleurs, bien que cette chasse occasionne beaucoup de victimes collatérales, l'objectif principal n'est pas tant de tuer des éléphants que de les capturer pour les domestiquer. Grande richesse qu'un éléphant vivant qu'on peut domestiquer et qui va devenir une aide considérable dans toutes sortes de travaux, bien entendu. Le 13 décembre 1785, donc, Une vingtaine de personnes quittent Colombo. Ils quittent Colombo en bateau. Ils atteignent la côte ouest de Ceylan et plus précisément Negombo, une ville côtière fortifiée jadis par les Portugais. On n'imagine pas le nombre de colonisateurs successifs qui ont vague après vague édifié des fortins, des bastions, des remparts sur cette pauvre île de Ceylan. Donc en l'occurrence, c'est une fortification portugaise. Le lendemain, les hommes sont à pied d'œuvre et ils peuvent commencer à pénétrer dans l'épaisse forêt sri-lankaise. L'objectif de la chasse, c'est de rabattre un troupeau d'éléphants vers l'enclos qui a été établi ici. C'est assez compliqué. Des groupes d'hommes séparés les uns des autres d'une vingtaine de pas environ forment dans la forêt comme un arc de cercle qui fait très très vaste, hein, bien sûr, ça fait 12 kilomètres de diamètre environ, et là ils sont munis de toutes sortes, il y a des torches, des tambours, faut faire du bruit, faut agiter bien entendu, certains sont équipés d'armes à feu. Le cercle, petit à petit, à mesure qu'on va avancer, va se réduire bien entendu et est censé pousser les éléphants vers l'enclos. Dès que le troupeau est à l'intérieur, l'enceinte est close par une barrière. Quand je dis une barrière, là encore, c'est très grand, hein, ça fait 250 mètres de long. Une barrière de gros pieux de cocotiers qui sont liés entre eux par des lianes. Petit à petit, l'enclos se rétrécit, l'espace se resserre. Ce n'est plus qu'un couloir qui finit par faire 15 mètres de long et les éléphants s'y retrouvent en file indienne, séparés les uns des autres par des barrières qu'on glisse entre eux, bien entendu, pour les empêcher d'avancer ou de reculer. Ensuite, mais ensuite seulement, l'animal est ligoté aux pattes, au cou, avec de très gros cordages. Il est attaché à deux éléphants domestiques qu'on appelle les vendeurs d'âmes. Ça, c'est un bien étrange et bien joli nom. Les vendeurs d'âmes, ces éléphants déjà domestiqués qui vont être censés calmer la bête encore sauvage. En l'occurrence, les deux campagnes de chasse qui sont organisées là en ce mois de décembre 85 sont fructueuses puisqu'on capture quelques 70 éléphants, 71 précisément, 12 mâles porteurs d'ivoire, hein, avec de grandes défenses, 41 femelles et 18 mâles sans défense. Parmi eux, deux éléphantaux de 18 mois, et ils nous intéressent ces petits-là, puisqu'ils s'appellent, enfin on va les baptiser en tout cas, Hans et Parky. Le 26 janvier 1786, Van Braam et ses hommes vont emporter ces deux éléphantaux dans les cales d'un des vaisseaux de leur fameuse escadre, et les voilà partis pour un très long voyage. Comment est-ce qu'on nourrit ces jeunes éléphants? Ben, on leur donne du riz, on leur donne des pousses de bambou, enfin tout ce qu'ils ont l'habitude de manger dans la forêt, bien entendu. Et lorsque la femelle, qui donc a été baptisée Parky, reçoit de temps en temps du pain et des fruits, si l'on en croit les passagers du navire, elle pousse des cris, elle entoure le cou de celui qui lui donne à manger pour le caresser avec sa trompe. Bon, ça y est, elle est déjà domestiquée, elle. Mi-juillet 86, les deux éléphants sont dirigés vers Forbourg, à proximité de La Haye. On les installe dans une vaste propriété qui est juste à côté du château de Wistenborg, qui est le lieu de résidence des Statoudaires de Hollande, hein, donc une des grandes résidences officielles du pays. Cette propriété contient une ménagerie, comme la plupart des beaux châteaux de l'époque. Elle abrite une des plus riches collections de sciences naturelles d'Europe, et on peut dire que tous les botanistes, tous les zoologues, tous ceux qui s'intéressent aux espèces vivantes en cette fin de XVIIIe siècle connaissent bien entendu cette ménagerie. C'est là notamment qu'on trouve le premier spécimen vivant en Europe, hein, bien entendu, d'orang-outan. Hans et Parky, désormais, vont s'acclimater, en quelque sorte. Ils vont bientôt devenir plus néerlandais qu'ils n'étaient sri-lankais. Leur voyage est déjà loin. Ils ont beau avoir une mémoire d'éléphant, je ne sais même pas s'ils se rappellent tout cela. Thank you.
Un extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns sur Europe 1, car ce sont deux animaux qui sont à l'honneur jusqu'à 15h dans Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous nous racontez l'histoire du couple d'éléphants du Jardin des Plantes, Hans et Parky. Alors après leur capture au Sri Lanka en 1786, ils sont maintenant en Hollande.
Eh oui, on disait Ceylan à l'époque. Je dis ça pour que vous n'ayez pas trop de messages.
Oui, c'est vrai, sur Twitter.
Alors, Hans et Parky sont donc à la ménagerie de Voorburg, près de La Haye. Je crois d'ailleurs qu'on dit Voorburg, mais bon, je connais pas bien moi le néerlandais. Et bien entendu, toutes sortes de hautes personnalités viennent les voir. Ils sont un peu là, ils sont les stars, si je puis dire, de ce jardin. Le statoudeur Guillaume V en personne, Guillaume d'Orange-Nassau, vient les voir. Alors il faut vous dire que son autorité à l'époque est de plus en plus contestée, qu'il a quitté La Haye quelques mois plus tôt et qu'il s'est installé au château de Etlo, à côté d'Apeldoorn. Ce château qui est un petit peu plus ou moins inspiré, lointainement on va dire inspiré de Versailles, avec quand même des jardins à la française, etc., au cœur d'un grand domaine. Guillaume V s'est installé dans cette nouvelle résidence et il réclame les deux éléphants, bien entendu. Il s'y est habitué d'une certaine manière. Après tout un petit périple, Hans et Parky arrivent donc à la ménagerie de Etlo. Dans Voyage dans la Belgique, la Hollande et l'Italie, voilà ce qu'écrivait André Touin, je le cite. La ménagerie est placée à un quart de lieue du château, on dirait nous un kilomètre, dans une prairie et sur le bord d'un ruisseau d'eau vive fort agréable. Indépendamment des loges où l'on tient les animaux pendant l'hiver, on ne disait pas les cages à l'époque, on disait les loges, on en faisait autant en France d'ailleurs. Il y a des habitations pour l'intendant du château et pour les gens du service de la ménagerie. Il s'y trouve aussi plusieurs parcs et cours fermés de palis et de murs. L'un d'eux est destiné aux quadrupèdes paisibles, l'autre aux oiseaux. Un troisième sert aux éléphants lorsqu'on leur fait prendre l'air. La loge des éléphants est une espèce d'écurie divisée en deux parties par un grillage formé de grosses pièces de bois assemblées avec solidité. Un espace immense, les éléphants ont l'air ravis et dans son histoire des ménageries de l'Antiquité à nos jours, Gustave Loisel nous dit qu'ils s'aimaient d'un véritable amour ces deux-là. On pouvait même dire d'un amour humain, quand on voyait dans le parc où on les promenait en liberté, le mâle saisir les hautes branches des arbres avec sa trompe pour que sa femelle pût en manger plus facilement les feuilles. C'est pas joli cette image et cette scène. Alors les années vont passer, hein. On était dans les années 1786, 7, 8, etc. Début 1795, voilà les Français. Ça y est, ça remue, c'est la Révolution, vous savez. On est en guerre à l'époque contre une grande partie de l'Europe et notamment contre les Provinces-Unies. Les Français s'approchent, le statoudeur prend la fuite, le voilà parti pour Londres. On a envie de dire retour à l'expéditeur, mais enfin, je ne vais pas entrer dans ces subtilités de la politique anglo-hollandaise. La République batave, à ce moment-là, est proclamée. Et quatre semaines plus tard, eh bien, on envoie quatre personnalités qui représentent la Commission temporaire des arts et sciences. Là, on est vraiment dans les appellations révolutionnaires, bien entendu. Ce sont les appellations créées par la Convention. Et ces quatre envoyés arrivent donc à La Haye, où ils vont découvrir le fameux cabinet de Voorburg, qui est déclaré, puisque maintenant c'est français, propriété nationale. On effectue un inventaire, alors on trouve toutes sortes de choses. Un squelette de girafe, un hippopotame, un orang-outan dont je vous ai parlé, une vingtaine de quadrupèdes, toutes sortes d'oiseaux, de papillons, des poissons, des reptiles, des coquilles, des minéraux, des fossiles, etc. Et combien de médailles, et combien de tableaux, et des registres gigantesques, etc. Les collections en question arrivent à Paris en juin 1795 pour prendre place au tout nouveau Muséum National d'Histoire Naturelle. Je dis tout nouveau, il a été inauguré à peu près 2 ans plus tôt. Et au même moment, à Apeldoorn, l'autre ménagerie du statoudeur est découverte. Alors là, il n'y a pas grand-chose. Il y a des cervidés, des brebis, des porcs épics. Il y a des faisans, des pigeons. Enfin bon, vraiment. Et deux éléphants, dites donc. Ça, c'est plus intéressant que les pigeons, bien entendu. Hans et Parky sont là. Le mâle s'appelle Hans, racontait André Touin, ce qui signifie Jean dans notre langue. Merci, monsieur Touin. Il est un peu plus volumineux que la femelle, qui porte le nom de percaille ou de perroquet. On l'a donc rebaptisé Nouparki, vous savez. Celle-ci est d'un caractère plus doux. Elle paraît céder toujours aux volontés du mâle. Ils jouent ensemble avec leurs trompes et avec leurs têtes. Pendant la nuit, ils se couchent sur le côté pour dormir et se reposer. Rarement, ils sont malades. Et lorsqu'il survient quelque indisposition, ce qu'on reconnaît à leur dégoût pour les aliments ordinaires, on leur donne un peu de froment et de l'eau dans laquelle on a détrempé du son. D'après tout ce que j'ai observé de ces animaux, je suis parfaitement de l'avis de Buffon. L'éléphant est un monstre de matière et un miracle d'intelligence. Oh, oh quelle merveille ces formulations de Buffon. Il n'existe alors en Europe qu'un seul autre éléphant, c'est celui de la Tour de Londres. Alors là, celui est complètement, c'est un pachyderme cacochyme, si j'ose dire. Les Anglais, d'ailleurs, ont offert 500 000 livres. Vous imaginez la somme complètement phénoménale. 500 000 livres au statuaire de Hollande pour acheter les deux éléphants. Mais évidemment, la France n'a pas l'intention de les laisser. Il ne s'agit plus maintenant que de les ramener à Paris, coûte que coûte. Et on est pourtant dans une situation complètement terrible. Hein. C'est l'époque de la grande banqueroute du régime. Mais on arrive quand même, on ne sait pas vraiment comment, à débloquer 15 000 livres pour la construction de tout un enclos, etc. Et pour préparer les cages qui permettront de transporter les animaux pour leurs frais de route, etc. Alors on va faire plusieurs tentatives. Les deux premières sont des échecs parce que ce qu'il faut vous dire, j'ai pas encore eu l'occasion de le dire pour l'instant, c'est que Hans a beau être adorable avec sa femelle, il est d'un caractère pour le moins difficile. Il ne se laisse pas faire, monsieur Hans. Le 25 septembre 1797, ça y est, on a quand même réussi à former le cortège qui s'ébranle en direction de Paris. Alors il va y avoir une tempête terrible au cours du voyage. Ah oui, tout ça ne se fait quand même pas dans la facilité.
L'incroyable parcours du couple d'éléphants du Jardin des Plantes. Voilà ce que vous raconte aujourd'hui Franck Ferrand sur Europe 1 jusqu'à 15h. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission et nous laisser des messages sur la page Facebook au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1 au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et c'est l'histoire d'un couple d'éléphants, celui du Jardin des Plantes, que vous avez décidé de nous raconter aujourd'hui, Franck Ferrand. Alors nous sommes au XVIIIe siècle et ce couple, Hans et Parky, viennent de quitter la Hollande pour la France.
Exactement, et Jean-Pierre Houël a écrit une histoire naturelle des deux éléphants. « Le simple roulis du vaisseau devait incommoder les éléphants, écrit-il. Qu'on se les peigne au milieu de la tourmente d'une mer en courroux, ils embrassaient avec force les plus grosses poutres de leur cage et se cramponnant avec leurs pieds, ils se raidissaient contre le côté opposé où posait la masse de leur corps. Mais la mer devint si furieuse qu'on se décida à relâcher dans une rade où l'on jeta l'ancre et on resta 3 jours. » Alors, après 8 mois, dont 6 passés à Cambrai à cause de l'hiver, les éléphants reprennent la route. Ils vont donc arriver à la fameuse ménagerie du Jardin des Plantes en mars 1798. On libère d'abord Hans, puis la femelle, Parky. Il y avait plus de 10 mois qu'elle n'avait pas eu Hans. Quoiqu'elle voyageât à côté de lui, raconte Jean-Pierre Houël, l'odorat seul leur avait mutuellement attesté leur présence, que les attentions soutenues de Hans avaient rendu sensible, veillant pour sa compagne en l'avertissant par un cri particulier des craintes qu'il éprouvait. C'est étonnant, hein, ce couple d'animaux extraordinaires. Donc, on va les présenter à la ménagerie du Jardin des Plantes. On l'a rebaptisée Marguerite, elle, parce qu'on trouvait que c'était Parky, ça paraissait bizarre aux Français de l'époque, et inutile de vous dire que les jours pairs, puisque l'accès au grand public est restreint aux jours pairs, de 11h à 13h et de 15h à 17h, c'est un succès phénoménal. Les Parisiens sont là, tout le monde veut voir ces deux éléphants. On est à une époque où il est très rare de voir des éléphants en Europe, bien entendu. Il y en a eu, je vous l'ai dit. Il y en avait à Versailles d'ailleurs. Il y a même un éléphant qui est mort sous le règne de Louis XVI à Versailles en se noyant dans un des bras du Grand Canal. Mais ça restait très rare, bien entendu. Alors, on vend toutes sortes de souvenirs, etc. On va même organiser, 2 mois après l'arrivée des éléphants, à la ménagerie, on va organiser un concert pour Hans et pour Marguerite. Je continue à l'appeler Parky, si vous voulez bien, ce sera moins ridicule. On chante notamment le Ça ira, hein, bien entendu. Il semblerait que ça excite beaucoup Parky, ce « Ah, ça ira, ça ira ». Un second concert sera organisé peu de temps après, avec des instruments à vent cette fois. On va faire toutes sortes de poèmes pour à la gloire des deux éléphants. On verra même les visiteurs étrangers faire inscrire désormais dans leur tour de Paris cette visite aux éléphants. Toute la communauté scientifique est là sur les dents, si je puis dire, pour les observer. On analyse leurs ébats sexuels. Cuvier et la Cépette consacrent en 1901 deux chapitres aux deux éléphants dans la ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle. Et petit à petit, ces éléphants étant devenus des espèces de personnalités à part entière, on va améliorer, on va tout faire pour que leurs conditions de vie soient excellentes. On crée un bassin pour leurs ablutions, ce qui n'empêche pas Hans d'avoir toujours un très mauvais caractère. Il est assez terrible, il n'arrête pas de faire toutes sortes de farces, si je puis dire, à ses gardiens. On le voit souvent arriver avec le bout de sa trompe à faire glisser le loquet de la porte coulissante qui lui permettrait de se sauver. Et alors là, il y a une chose magnifique, c'est que c'est sa compagne, c'est par qui, c'est la femelle qui, avec sa propre trompe, remet le loquet en place, dit-on. Thompson, le gardien des deux animaux, on va faire l'expérience de la mauvaise humeur de Hans, puisqu'un jour qu'il tente avec un manche de pique de réprimer les coups de tête un petit peu brutaux que le mâle était en train de donner à sa femelle, Hans d'un seul coup se retourne, arrache avec sa trompe la pique des mains de Thompson et la brise violemment. Voilà un avertissement. Et puis, il fallait bien s'y attendre. Le Moniteur universel, le grand journal de l'époque, nous apprend le 8 janvier 1802, une triste nouvelle. Je cite le Moniteur. Le 5 janvier, Hans n'a point mangé pendant la matinée. Vers le soir seulement, il a pris un peu de paille et quelques pommes de terre. Vous voyez ce qu'on raconte aux lecteurs de l'époque. Je vous dis, c'est une personnalité. À la chute du jour, il a cassé un barreau de fer de sa loge. Il en a violemment frappé les barrières de son enceinte. Lorsqu'on lui a donné de l'eau après en avoir bu une certaine quantité, il s'en est servi pour bassiner les ouvertures de ses tempes, où il semblait avoir plus de gêne et de douleur qu'à l'ordinaire. Pendant la nuit, il a fait beaucoup de bruit et vers 4 heures du matin, il a poussé quelques cris aigus et vers les 6 heures, il est tombé mort. La femelle paraît fort affectée de la mort de son mâle. Elle a cherché à le relever du lieu où il est tombé. Elle verse des larmes abondantes. Elle jette des cris différents de ceux qu'elle a fait entendre jusqu'à ce moment. Cependant, depuis qu'elle a été séparée, elle commence à manger, mais elle regarde constamment dans la loge qu'habitait son mâle. Un certain Louis Dufresne est chargé de prélever la peau de Hans et de faire ce chef-d'œuvre de taxidermie que vous pouvez voir maintenant à Bourges. Nous avons procédé au dépouillement de l'éléphant. Nous n'avons pu le mettre sur le dos que par le moyen de moufles attachées au plafond, nous dit-il, et explique comment il a procédé. Un mannequin est moulé et on va ensuite procéder à ce qu'on appelle l'essayage de la peau. C'est la plus ancienne naturalisation d'un éléphant en France. C'est quand même intéressant d'écouter au cœur de l'histoire tous les jours parce que vous ne saviez pas de quand datait la plus ancienne naturalisation d'un éléphant en France. Et bien voilà, je vous le dis, 1802, Georges Cuvier pratique la dissection complète de l'animal. Ça va durer 40 jours, c'est pas une petite autopsie. Hans, semble-t-il, est mort d'une péripneumonie, nous dit Monsieur Cuvier en personne. Dans un premier temps, c'est un chameau qui va prendre la place de Hans provisoirement, puis un autre éléphant de 12 ans qui a été acheté à des forains, mais qui va mourir à son tour en 1804. Et par qui, me direz-vous ? Ah, ben par qui ? Elle va vivre encore un certain temps, puisqu'elle ne mourra qu'en 1817, autant dire qu'elle aura survécu à l'Empire. Hans aurait pu rester un de ces spécimens parmi tant d'autres, anonymes dans la multitude, nous dit Philippe Cantegab. Il a acquis, grâce à la redécouverte de son identité, une épaisseur historique à peu près unique. Quand on appréhende un tant soit peu le parcours qui fut le sien, le regard qu'on lui porte en échangé, l'animal naturalisé, étrange avatar de ce que fut jadis l'éléphant vivant, est devenu l'ultime incarnation de ce petit moment d'histoire du Muséum national. Bonjour Michel Saint-Jalme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous allons revenir bien sûr sur ce couple d'éléphants et puis sur un certain nombre d'autres animaux stars du Jardin des Plantes.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Thank you.
La bande originale du film Atari, composée par Henri Mancini à l'instant sur Europe 1, car une fois n'est pas coutume, vous avez décidé de nous parler d'animaux jusqu'à 15h avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Michel Saint-Jalme, directeur de la ménagerie du Jardin des Plantes, enseignant-chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Alors Michel Saint-Jalme, ces animaux, Hans et Parky, on les appelait donc Hans et Marguerite à l'époque, ont marqué la mémoire des Parisiens, mais aussi celle des naturalistes et de tous ceux qui s'intéressent à votre extraordinaire ménagerie du Jardin des Plantes. Ce sont des hôtes de marque, d'une certaine manière.
Ça fait partie des animaux extraordinaires de la ménagerie. Et ils sont associés, donc en plus de l'histoire fabuleuse que vous venez de raconter, qu'on pourrait passer des heures à en parler, parce que quand on lit tous les textes...
Moi j'ai été très court, par exemple, sur le fameux voyage entre les Pays-Bas et la France, mais c'est un voyage qui a été d'une complexité folle à organiser, hein. Il fallait les transporter, c'était des animaux devenus adultes à ce moment-là, hein. C'était plus des éléphantaux. Hein.
Tout à fait, plus que le voyage compliqué à organiser, c'est la préparation au voyage, puisque en fait on s'aperçoit qu'il s'est passé 3 ans entre le moment où les éléphants sont découverts par Toin dans la ménagerie donc de loups, et ensuite le jour où ils arrivent au Jardin des Plantes, on se demande comment ça a pu se passer. Et quand on lit l'ensemble de l'histoire, ce qui est fabuleux, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une période de l'histoire de France troublée, une période où il y a des problèmes économiques très importants, mais aussi une période où les gouvernements,
ils sont très instables.
Instables, donc les têtes changent régulièrement.
Oui, on est juste avant le consulat.
Le Lousardi, qui est l'un des soigneurs de la ménagerie, qui est parti donc en Hollande pour se charger du transport, régulièrement envoie des courriers pour demander de l'argent. Il n'a plus d'argent à un moment donné pour nourrir les animaux. Il faut qu'il les nourrisse avec sa solde. Puis il écrit ensuite aux professeurs du muséum qui, eux, traduisent au comité de salut public. Et ça passe de ministère à ministère, puisqu'il faut des autorisations du ministère des armées, enfin de la guerre.
Disons les choses, à l'époque, la France est en pleine banqueroute. L'État n'a plus un seul centime. Et donc, c'est très difficile, évidemment, surtout pour eux qui se trouvent loin, qui se trouvent là-bas. Comment est-ce qu'on a organisé le transport? Ça s'est passé comment, d'ailleurs? Il y avait des espèces de cages? Est-ce qu'on peut parler de cages?
Au début, c'était des chariots. Il fallait trouver les chariots qui avaient une résistance suffisante pour pouvoir supporter le poids de plusieurs tonnes
des éléphants. Pourquoi on ne les a pas fait marcher simplement comme on l'avait fait pour d'autres éléphants acheminés en Europe dans les temps précédents?
Alors, ce qui est évoqué, c'est des problèmes de sécurité.
Et c'est ça.
On pense qu'il y a beaucoup trop de risques à les faire marcher. On ne maîtrise pas tout à fait leur comportement. Donc, on préfère les faire voyager en chariot. Mais les chariots, les premiers chariots, donc je crois que le premier convoi, parce que vous avez dit en effet que le 25 septembre 1797, le dernier convoi était parti de la ménagerie pour arriver donc 8 mois plus tard à Paris, en ayant voyagé à moitié par la route, à moitié par les canaux, en ayant, comme vous dites aussi, passé l'hiver, à Cambrai. Et donc, mais ça, c'était le dernier voyage, celui qui a réussi, parce qu'avant, il y a eu plusieurs tentatives.
Voilà, c'est ça.
Le premier chariot qui a explosé, parce que Hans voulait rejoindre Parky, donc il a explosé son chariot, et le deuxième, ce sont les roues qui ont cédé. Et c'est pour ça qu'il a fallu faire venir un ingénieur des armées pour pouvoir adapter des roues qui avaient été fabriquées pour les grosses pièces d'artillerie à ces fameux chariots qui ont ensuite été conservés au musée des arts et métiers parce que c'était une avancée technologique.
Exactement. Philippe Candegab, dans son incroyable histoire de l'éléphant Hans aux éditions Vendémiaire, cite le Moniteur universel nous décrivant la joie des éléphants une fois libérés quand ils arrivent à Paris. La joie de la femelle était plus vive, écrit le journaliste de l'époque. Elle l'exprimait surtout par les battements précipités de ses oreilles qu'elle faisait mouvoir comme un oiseau fait de ses ailes et avec une vitesse extrême. Elle passait sa trompe sur le corps du mâle avec la plus grande tendresse et la plus grande volupté. Elle la portait particulièrement à son oreille, où elle la tenait longtemps, souvent aussi, après l'avoir promenée sur tout le corps du mâle, elle la reportait amoureusement à sa propre bouche. De son côté, le mâle faisait la même chose sur le corps de la femelle, mais sa joie était plus concentrée. On ne manque pas d'une certaine naïveté quand même dans la description que l'on fait des comportements animaux.
C'est assez extraordinaire, et moi, une des descriptions de comportements que j'ai préférées dans les descriptions d'Ouel, c'était les comportements l'interprétation des comportements qui avaient suivi justement
l'histoire naturelle des deux éléphants.
Le concert. Et il écrit à un moment donné, je vais vous citer un petit passage que je trouve fabuleux, par rapport justement à l'interprétation du comportement sexuel des éléphants en relation avec les caresses de la trompe. Et puis à un moment donné aussi, à la fin du concert, la femelle se met sur le dos et c'est interprété comme une invitation à l'accouplement. Et donc là, je vous cite quelques passages que je trouve complètement fabuleux. Donc, on sait que l'éléphant, dans l'état de domesticité, se refuse aux jouissances de l'amour, bien qu'il en ressente les plus vives atteintes, que dans l'état de liberté, il se dérobe au regard même de ses semblables, puis avec la compagne dont il a fait choix, cherche les solitudes les plus profondes et ne cède à ses propres désirs et aux vœux de la nature que lorsqu'il s'est entouré de l'ombre du silence des bois. En fait,
c'est tout le problème de l'exhibition des animaux.
On n'a jamais observé d'accouplement d'éléphants en captivité parce que il s'accouplerait la nuit. Oui. Donc il continue, la difficulté de le surprendre en ce moment fait que nous n'avons encore que des conjectures sur la manière dont il opère l'acte de sa reproduction. Alors là, il cite Aristote. Aristote a cru qu'elle ne différait pas des autres quadrupèdes et que la femelle abaissait lentement sa croupe pour recevoir plus aisément le mâle. Et là, il cite Buffon, qui est donc la référence à l'époque. Buffon, au contraire, a démontré que la position relative des parties rendait impossible cette situation d'accouplement et l'obligeait au contraire à se renverser sur le dos.
Voilà un mystère. Un mystère zoologique qui n'est plus tellement un mystère historique, mais bon.
Qui n'a pas été longtemps, à mon avis, un mystère, mais il n'y a jamais eu d'accouplement entre Hans et Parky, donc ils n'ont jamais pu, dans ce cas, résoudre le problème.
Et pourtant, ils étaient très amoureux.
Très amoureux, mais on pense qu'ils étaient trop jeunes.
Ah oui, c'est ça. Il faut une maturation en tout chez les éléphants, évidemment. Elle a survécu longtemps au mâle, quand même. 17 ans, c'est assez...
17 ans.
Enfin, 15 ans, oui.
Tout à fait. Et là, ça nous ramène aussi à un moment de l'histoire de la ménagerie que j'aime beaucoup parce qu'il est associé au plus beau monument de la ménagerie, qui est ce qu'on appelle la rotonde, qui est un monument qui avait été, enfin un monument, un bâtiment pour recevoir au départ des féroces, qui avait été dessiné par l'architecte Molineau, qui était l'architecte du muséum, qui a dessiné les premiers plans de la ménagerie. Et donc Molineau a commencé ce travail sur cette fameuse rotonde qui s'est arrêtée très vite faute d'argent. Entre-temps, le directeur de la ménagerie à l'époque, c'était Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, il a été appelé à suivre Napoléon dans la campagne d'Égypte. Il est parti en 98, juste à l'arrivée
au moment
des éléphants, et il ne rentrera que en 1802. Et en 1802, entre-temps, les travaux de la rotonde vont reprendre progressivement. Napoléon va l'Empire 1804, le premier empire, et là, Napoléon crée la Légion d'honneur en 1806. Et donc, on va changer les plans du bâtiment. Et en plus, on s'est rendu compte que les plans n'étaient pas conformes.
Mais pardon, quel rapport entre le bâtiment et la Légion d'honneur ?
En honneur à la Légion d'honneur, on construit ce bâtiment dont la forme rappelle la croix de la Légion d'honneur.
Voilà.
Ce bâtiment sera fini d'être construit en 1812 et le premier animal qui l'accueillera,
Eh bien, ce sera notre cher Parky. Hans, il est mort.
Hans est mort en 1802.
Pardon, excusez-moi.
Vous avez consacré, d'ailleurs, on va y venir dans un instant, une exposition à tous ces animaux célèbres de la ménagerie. C'était l'année dernière, ça, à peu près.
C'était l'année dernière, à l'occasion de l'anniversaire des 220 ans de la ménagerie, puisque la ménagerie a été officiellement créée par décret de la Convention le 16 mai 1793.
C'est ça. Alors, on va y venir dans un instant. Un mot peut-être de la sensibilité de ces éléphants à la musique. On leur a organisé un concert pour voir comment ils réagissaient, en quelque sorte. C'est étonnant, ça.
En fait, le concert n'était pas une expérience
scientifique.
Il était, et c'est là que c'est intéressant, il était destiné à améliorer le bien-être des deux éléphants qui semblait s'ennuyer, puisque en fait, il n'y avait aucun bâtiment adapté pour les accueillir, et on avait aménagé plus ou moins rapidement un local dans l'ancienne régie des fiacres.
Une sorte de grande écurie.
Une sorte de grande écurie qu'on avait fermée en utilisant les barreaux qu'on avait récupérés de la ménagerie de Versailles, et qui était très très sombre, peu... avec un accès à l'extérieur qui était relativement restreint. Et pendant l'hiver, les animaux, les éléphants ne pouvaient pas sortir puisqu'il faisait trop froid.
Ils dépérissaient un peu, en fait.
Donc, ils dépérissaient et en plus, ils s'ennuyaient. Et donc, c'est pour essayer d'améliorer, d'éviter l'ennui qu'on a organisé ce concert.
Et ça a été un grand succès.
Ça a été un grand succès. Et
A vu Marguerite danser.
On a vu Marguerite danser et justement et avoir ses comportements sexuels qui ont été interprétés comme des comportements sexuels dont j'ai parlé tout à l'heure. Malheureusement, ces concerts ne se sont reproduits que deux fois, à 3 semaines d'intervalle. Et puis après, ils ont dû s'ennuyer à nouveau.
Oui, et bon, ils ont trouvé d'autres occupations, visiblement.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Auto.fr.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et ce sont les animaux du Jardin des Plantes qui sont à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Michel Saint-Jalme, directeur de la ménagerie du Jardin des Plantes et enseignant-chercheur au Muséum d'Histoire Nationale Naturelle.
D'Histoire Naturelle, oui. Voilà. Muséum National d'Histoire Naturelle.
Voilà, c'est remis ça, dans l'ordre. C'est comme le loto, il faut le faire dans l'ordre.
Alors, je voudrais justement, puisqu'après tout, nous sommes quand même dans une émission d'histoire, Michel Saint-Jalme, qu'on redonne un certain nombre de grands noms avant de venir aux autres animaux célèbres, amusants de la ménagerie. Celui qui en a eu l'idée, bon, on a parlé beaucoup de Buffon, on ne va pas y revenir, ni sur Jussieu, qui avait fait l'objet il y a quelque temps d'une belle émission d'ailleurs. Celui qui a eu l'idée de la ménagerie, c'est Bernardin de Saint-Pierre, il faut dire ça peut-être.
Tout à fait. Dernier intendant du Jardin du Roi, premier directeur du Jardin National des Plantes, et qui perdra son poste parce qu'il a, à mon avis, un peu trop critiqué les professeurs du muséum quand le Jardin National des Plantes devient quelques mois plus tard le Muséum National d'Histoire Naturelle avec des nouveaux statuts qui sera géré par l'Assemblée des professeurs qui élira en son sein un représentant, un président, et pendant de nombreuses années, ce président sera réélu tous les ans. C'est pour ça quand on regarde un petit peu, au début, je comprenais pas trop, parce que une année c'était Jussieu, c'était Lacépède, après c'était Daubenton qui fut le premier. Enfin, c'était assez compliqué, jusqu'à ce que je comprenne que d'abord ça a été un an, puis 2 ans, puis 5 ans, et c'est toujours actuellement 5 ans.
Vous avez cité Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, personnalité importante également, puisque il va être c'est lui qui va donner son ampleur au lieu, son amplitude.
Il va donner son ampleur au lieu, mais je voudrais bien revenir quand même un petit peu sur Bernardin Saint-Pierre, parce que c'est un personnage qui est quand même...
J'en profite pour saluer les auditeurs et auditrices d'Éragny-sur-Oise, ils se reconnaîtront. Je ferme cette parenthèse.
Parce que c'est Bernardin qui a été à l'origine de la ménagerie. Mm-hmm. Après avoir été invité par Couturier, qui était le dernier intendant de la ménagerie royale à Versailles, à venir visiter cette ménagerie où il a trouvé des animaux complètement incroyables avec le rhinocéros de Louis XV.
C'est ça, oui.
Et puis le quagga, qui est une espèce qui a disparu depuis.
Quagga,
c'est un cheval. Quand on le voit, on a l'impression que c'est un hybride entre un cheval et un zèbre. En fait, c'était une espèce de zèbre qui a disparu apparu à la fin du 19e siècle et dont le fameux quagga que Bernardin va voir à Versailles viendra que 2 ans plus tard, parce que la ménagerie ne sera créée que 2 ans plus tard à la ménagerie. Il survivra jusqu'en 1796, à date après laquelle il sera lui-même naturalisé. Et aujourd'hui, on peut le retrouver dans la galerie des espèces disparues de la galerie de l'évolution au muséum.
Vous parliez du célèbre rhinocéros du roi Louis XV. On le voit également dans la galerie.
Hein, on le voit également, mais il ne viendra jamais à la ménagerie. Alors que
il est resté quelques années. C'est ça, oui, voilà.
Il est resté à Versailles. En fait, il était toujours vivant.
Oui.
Il est mort à Versailles, tué par un coup de sabre donné par un soldat.
On ne sait pas trop par qui, entre
autres. On le trouvera mort un matin dans une fontaine. Dans son enclos.
Oui, il y a eu beaucoup de ces petits drames de ménagerie, si je puis dire, à la ménagerie de Versailles. Je parlais tout à l'heure de cet éléphant qui s'était noyé. On pense qu'on ne sait pas s'il était malade ou s'il...
Alors là, je ne connais pas trop l'histoire, mais si vous voulez, je voudrais bien rebondir sur les éléphants de Versailles, parce qu'il faut savoir que l'un des éléphants de Versailles qui est mort en 1780, il n'a pas été naturalisé, mais en revanche, son squelette est venu au Muséum d'Histoire Naturelle. Et aujourd'hui, ce squelette est toujours visible à la Galerie d'Anatomie Comparée. Et c'est le squelette type de l'éléphant africain. En fait, il a permis de décrire l'espèce d'éléphant d'Afrique. Sachant que Hans et Parky étaient des éléphants d'Asie.
Il venait de Ceylan. C'est l'éléphant qui est le plus familier aux Français, bien entendu, hein, et au public d'une façon générale. C'est l'éléphant des cirques et des zoos, souvent l'éléphant d'Asie. Il y a moins d'éléphants d'Afrique, quand même,
tout
en captivité.
J'en conclurai là sur Bernardin de Saint-Pierre. Mm-hmm. Donc, en rentrant de Versailles, il écrit un mémoire adressé à la Convention sur l'intérêt de créer une ménagerie. Et là, je le cite, pour le progrès des arts, des sciences, de l'économie rurale, de la philosophie même, nos relations politiques avec les puissances étrangères et l'intérêt de la capitale. C'était complètement fabuleux. Et ce qui est... Les missions qu'il cite là, c'est quasiment les missions du muséum, les missions contemporaines. Donc c'était quand même un énorme précurseur. Et cette ménagerie n'a pas pu être construite puisque il n'y avait pas assez d'argent et on lui a dit non, c'est pas le moment. Donc il faudra attendre 2 ans. Pour
1793,
voilà, 1793, novembre 93, quelque chose de complètement opportuniste.
Juste après la terreur, oui.
Puisque, un arrêté de la ville de Paris décide d'interdire la présentation d'animaux dans les rues de Paris. Et tous ces animaux sont confisqués par la police et ramenés au Jardin des Plantes. Et là, c'est Étienne Geoffroy de Saint-Hilaire qui les accueille, qui va créer cette ménagerie provisoire dont il deviendra le directeur et dont il restera le directeur pendant 40 ans.
Donc des animaux qui en partie étaient d'origine foraine, somme toute. Hein,
Tout à fait.
Oui.
Et les premiers soigneurs de la ménagerie, qu'on appelait à l'époque les gardiens, étaient ces montreurs d'animaux. Et parmi eux, il y avait le fameux Louzardi qui est ensuite parti chercher les éléphants en Hollande.
Voilà, donc la boucle est bouclée d'une certaine manière.
Le monde est petit.
J'ai dit un mot de la... Il vous reste 20 secondes pour nous dire un mot de cette girafe Zarafa, mais nous lui avions consacré ensemble une émission déjà, mais elle a été très célèbre.
Alors là, on est sous le règne de Charles X. Aussi associée à la rotonde dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, offerte par le pacha Mohamed Ali, pacha d'Égypte, à Charles X. Il viendra d'autres chameaux d'Égypte, traversera l'Égypte à d'autres chameaux, puis en bateau jusqu'à Marseille. Elle y passera l'hiver dans la cour de la préfecture, mettra 41 jours à revenir à Paris et vivra 18 ans dans la fameuse rotonde.
Il y a un certain nombre d'épisodes célèbres de l'histoire de la ménagerie du Jardin des Plantes. Le plus célèbre, et malheureusement, c'est celui du siège de la capitale, hein, quand il a fallu abattre un certain certain nombre d'animaux pour les donner à manger aux Parisiens, parce qu'il n'y avait vraiment plus rien du tout à manger.
1870, c'est l'histoire de la ménagerie, elle est faite de drames et de grands moments.
Elle existe toujours, cette ménagerie. Alors, pendant un temps, elle a été un peu éclipsée par la célébrité mondiale du zoo de Vincennes, mais elle existe toujours. Elle est un peu le prolongement vivant, si je puis dire, du Muséum National, quand même. Il faut expliquer ça.
La ménagerie, c'est le plus ancien zoo du monde, après le zoo de Schönbrunn. Mais ça a été le premier zoo républicain, le premier zoo vraiment ouvert au public. Donc, je dirais que la ménagerie ne peut pas mourir. La ménagerie, aujourd'hui, est immortelle. C'est le symbole des parcs zoologiques et le symbole des missions, aujourd'hui, de conservation de la biodiversité, d'éducation et de recherche.
Combien de pensionnaires, aujourd'hui?
180 espèces, 1200 pensionnaires, avec des orangs-outans, des panthères et notre dernière arrivée qui est un tapir malais, qui est une espèce formidable, qui est un animal noir et blanc, qui évoque un petit peu le panda avec une trompe d'éléphant, mais il est de la famille des tapiridés qui est proche des équidés, donc des chevaux.
Merci beaucoup Michel Saint-Germain, une émission sur l'histoire des tapirs.
Un instant, sur Europe 1, Franck Ferrand va vous livrer les origines de la peinture à l'aquarelle.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, pour vous, Franck, une question de Jean sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Pourriez-vous nous expliquer les origines de la peinture à l'aquarelle?
Oui, de l'aquarello, italien aquarello, c'est la couleur détrempée. Vous savez, ce sont des pigments qui sont broyés et liés par de l'eau gommée. L'eau gommée, c'est un mélange d'eau distillée et de gomme arabique qu'on utilise dans bien des peintures. Alors, on utilise l'aquarelle quasiment depuis toujours. En France, on en trouve des traces sur les anciennes aquarelles, sur les anciennes enluminures. Vous savez, certaines des enluminures, j'en ai vu de très belles au Mont-Saint-Michel la semaine dernière, c'était extraordinaire, sont des enluminures à l'aquarelle, que ce soit sur vélin ou sur papier, bien entendu. Pendant très longtemps, on utilise l'aquarelle comme une méthode, comme une technique adjuvante, c'est-à-dire que ça sert notamment au dessin préparatoire, ça sert aux ébauches pour les tapisseries, les vitraux, ce qu'on appelle les cartons, etc. Et puis, on se met à la toute fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle à considérer l'aquarelle comme un art à part entière, et ce sont les Anglais, vous savez, qui vont le populariser considérablement, au point qu'en 1855, on décide d'en faire une exposition à Paris. Alors vous avez là des aquarelles de Turner, des aquarelles de Peter de Wint, etc., qui vont séduire le public. Les gens s'y mettent, si je puis dire, et c'est un peu l'ancêtre de nos appareils photo, puisque c'était facile. Vous emportez votre petit matériel d'aquarelle et vous dessinez comme ça. C'est beaucoup plus fin, c'est plus nuancé que la gouache, évidemment.